Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spéciale Étrange Festival, jour 2. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de trois séances et on commence tout de suite avec la première, à savoir les courts-métrages autour du film Conan de Bertrand Mandicot. Alors que ce soit clair, le film Conan n'a pas été projeté, il n'est pas dans la programmation de l'étrange. Voilà, ça me déçoit beaucoup par ailleurs, mais bref, on va devoir attendre malheureusement la sortie du film en salle. Non, ce qui a été projeté, c'est en fait deux courts-métrages qui ont été tournés à peu près en même temps que Conan. Voilà, donc Bertrand Mandicot, toujours par les mêmes actrices, et qui sont en fait directement liées à Conan, et donc ça fait un espèce de triptyque, voilà, avec Conan. Donc on en a deux, on a Rainer, A Vicious Dog in the Skull Valley, et on a Nous les Barbares. Je vais essayer de faire une critique, voilà, plutôt croisée des deux, parce que pour moi ça a du sens, hein, c'est vraiment des œuvres qui sont faites pour s'inscrire dans une même continuité, un même univers. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Bertrand Mandicot, j'en avais parlé déjà, il me semble, dans ce podcast. J'ai un doute, mais je pense que j'avais dû en parler dans mon top 2022, parce que j'avais adoré son After Blue, qui était absolument exceptionnel. Voilà, qui était un film ouais, qui mêlait SF, western, etc., qui était bien dans son style en plus. Et j'avais peut-être dû aussi parler à ce moment-là du film Les Garçons Sauvages, qui était son premier long métrage, voilà, que j'avais un petit peu moins aimé pour le coup, mais je pense aussi que c'est dû au fait que j'adore quand Mandico utilise la couleur, parce que je trouve que c'est un réalisateur qui a tellement à donner, à montrer, voilà, en termes de couleurs, c'est un truc de fou. Et je pense que les deux courts-métrages dont je vais vous parler en attestent parfaitement. Après, Les Garçons Sauvages, là où j'adore, c'est que y a une réflexion sur le genre, mais après, dans l'œuvre de Mandicant en général, hein, mais il y a une réflexion même là dans les Garçons Sauvages sur le genre qui est absolument aussi géniale. Voilà, donc pour le coup, en plus, il y a des actrices que j'adore dans ce film. Donc c'est vrai que le cinéma de Mandico, c'est un cinéma qui est absolument passionnant, qui pour le coup lui est propre. Je pense qu'il y a très peu de personnes, voire aucune en France, qui peut se vanter d'avoir un cinéma qui ressemble au cinéma de Bertrand Mandico. Et c'est un truc de fou comment, à partir de peu, il arrive à créer des univers absolument immenses. Et donc, les deux là, courts-métrages qui nous a montré, ça en témoigne parfaitement. Il faut savoir qu'il y en avait en première mondiale. Donc j'ai fait partie des premiers spectateurs tout court à découvrir le deuxième, qui était Nous les Barbares, et qui m'a mis une claque monumentale, mais j'en reparlerai. Bref, donc oui, le premier, en fait, il faut savoir comment est né Conan. C'est le directeur des Amandiers, le théâtre, qui était voir Mandicant en lui disant: ouais, tu veux pas faire un truc pour clore la saison? Et Mandico lui répond, c'est ce qu'il nous a raconté, en blague: ouais, enfin, en fait, si tu me dis ça, enfin, moi je vais faire une connerie, genre Conan le barbare, mais en femme, quoi. Voilà, donc Conan la barbare. Et le directeur des Amandiers a fait: bah, let's go. Et donc, du coup, ils ont commencé à bosser sur ça. Sauf que le Covid est arrivé et que du coup, ça n'a pas pu être joué, il me semble. Je sais plus, je crois que ça n'a pas pu être joué. Voilà, donc ils ont en tout cas planché sur une version film, je crois, qui était prévue déjà à l'origine, mais qui du coup est arrivée plus tôt que prévu. Et donc, en fait, il y a donc le premier court-métrage, Rainer, qui raconte un petit peu le processus de création et de répétition. Il y a ce personnage, il me semble que c'est Octavia, voilà, qui est jouée par Christophe, je ne sais plus son nom, c'est terrible, en plus il était à la séance. Christophe Bière, voilà, qui est dans le film, qui, bon, du coup j'ai pas le nom, mais pour le coup, bref, je crois que c'est Octavia, le nom de son personnage, qui joue une metteuse en scène qui, donc, du coup, veut monter Conan. Et bon, bref, c'est un peu, en fait, c'est dans l'univers de Mandico, hein, ça a été tourné aux Amandiers pour le coup, donc il y a vraiment, on se base sur des décors de théâtre, sauf que Mandico, à partir de décors de théâtre, il te fait des plans séquences, voilà, dans l'espace, une photo absolument exceptionnelle. T'as plus l'impression d'être au théâtre assez rapidement, en fait, en regardant ce film. Et voilà, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un film justement qui va parler de tout ce qui est processus de création, etc. Voilà, qui va parler, je trouve, de la place qu'on a envie d'occuper, voilà, en termes de rôle, etc. Et en même temps, ça témoigne un petit peu de l'art aujourd'hui. Voilà, c'est un film qui a été fait pendant le Covid, donc forcément, l'art prenait bien cher pour le coup. Et je crois qu'à un moment, il le dit, hein, les gens aujourd'hui en ont plus rien à foutre de l'art, etc. Donc bref, il y a un vrai commentaire sur l'art, il y a un vrai commentaire sur comment on crée quelque chose, comment on en vient à faire les choses aussi, voilà, qui est très intéressant. Et voilà, une mise en scène toujours impeccable. J'avoue que j'ai pas tout compris. Après, je pense que pour avoir tout compris un film de Bertrand Mandicot, faut être chaud, parce que c'est quand même bien perché, même si j'adore ça. Voilà, donc ouais, non, j'ai pas tout compris, clairement. Mais toujours est-il que c'est un court-métrage que j'ai fortement apprécié, voilà. Qui pour le coup, joue aussi beaucoup sur le point de vue où il va aller interroger et questionner tous les personnages un à un. Voilà, bon, c'est tout le temps la même phrase qui revient, c'est tout le temps la même question. Mais pour le coup, voilà, c'est bien qu'on passe aussi par tous les personnages et qu'on voit un peu certains rapports de force qui peuvent s'inverser. Mais j'ai pas autant aimé que le deuxième, qui est Nous les Barbares, qui est donc celui qu'on a découvert en première mondiale. Et vu que c'était la première séance à l'Étrange Festival, c'était vraiment la première mondiale. Voilà, on était. C'est une salle de 300 places, il n'y avait pas de 300 personnes. Donc je pense qu'on était environ 200, voilà, à l'avoir découvert en exclusivité. Ça fait plaisir. Et bref, non, pour le coup, ouais, c'est un court-métrage qui m'a vraiment claqué la gueule parce que je trouve que ça reprend toutes les questions qui sont posées dans le premier, voilà, et ça les transpose sur le travail d'acteur, en l'occurrence le travail d'actrice, en les amenant beaucoup plus loin. Voilà, moi j'ai adoré ça, le fait que, bref, on se questionne aussi un peu sur pourquoi ce métier-là. Voilà, c'est vrai qu'il y a ce moment, moi, qui m'a, dans le premier segment, qui m'a casser la gueule quand le personnage répète en boucle « mais j'ai besoin d'amour ». Et bref, étant en réflexion en fait là-dessus, voilà, sur justement ce métier-là d'acteur, c'est un court-métrage qui en fait ne pouvait pas mieux tomber pour moi. Et pour le coup, ce style mandico, en plus, voilà, de le diviser en quatre segments et de faire à chaque fois, bon, je sais pas si c'est des vrais plans séquences, mais de faire des plans séquences à chaque fois, voilà, un plan séquence par segment. Moi, je suis quelqu'un qui adore le plan séquence, je suis quelqu'un qui adore l'esthétique de Bertrand Mandico, donc il m'a vraiment donné de quoi m'épanouir en fait, vraiment devant ce court métrage. Et en même temps, il y a aussi cette interrogation sur l'art, parce que on voit que les actrices communiquent, hein, avec le public. Il y a une rupture du quatrième mur qui est assez immédiate, dès le début pour le coup. Mais en fait, il y a quand même un script dans l'histoire. Et donc, parfois, le script change. Et les actrices, doivent s'adapter. Doivent s'adapter au changement de script, etc. Donc, il y a quand même des questionnements aussi sur ça, sur par exemple, est-ce qu'on doit à tout prix suivre un script ? Est-ce que il faut accepter ça ? À quel point on est prêt à aller loin pour un script ? Et en même temps, ça posait aussi, je trouve, vraiment la question de la réalité. Il y a beaucoup de comédiens qui, pour le coup, aiment bien vont faire des caisses et on ne sait plus du tout si ils sont dans la vraie vie ou si c'est vraiment du jeu. Et pour le coup, je trouve que c'est un film qui questionne aussi pas mal ça, voilà. Notamment avec le deuxième personnage de, je vais te retrouver son nom tout de suite, de Nathalie Richard, voilà, qui pour le coup, a une carrière assez étoffée, hein, quand même. Voilà, si on regarde les films qu'elle a fait, elle a une carrière très 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 étoffée, mais qui se prête au jeu, qui avait déjà joué dans After Blue par ailleurs, voilà, et qui est dans Conan aussi, et dans Les Garçons Sauvages, effectivement, je l'avais oublié, mais dans Les Garçons Sauvages aussi. Et ouais, son segment pose vraiment la question de à quel point, enfin, jusqu'où on est prêt à aller en fait pour être aimé, pour être exposé, pour avoir vraiment cette exposition, cette peut-être aussi la célébrité. Et à quel point, voilà, le fait que, il y ait une attente aussi sur les acteurs déjà installés, peut peser et aussi, enfin ouais, comment gérer cette attente, etc. Donc il y a vraiment tellement de questionnements qui se déploient sur le métier de comédien ou de comédienne. Et en fait, c'est un film qui, pour le coup, de par son plan séquence, de par sa rupture du quatrième mur, est absolument hypnotisant. J'étais vraiment bouche bée en fait devant le film. J'arrivais pas à enlever mon air bouche bée en fait, tellement j'étais hypnotisé, tellement j'étais dedans, tellement voilà, les couleurs de Mandico, il y a aussi beaucoup dans les deux films des personnages qui portent des LED et les LED font des bruits littéralement de sabre laser, et je trouve ça tellement hypnotisant. Et en fait, je pense que ce qui m'a encore plus claqué la gueule, c'est que je suis pas convaincu que Nous les Barbares soit tourné aux Amandiers, comme contrairement au premier. Et pour le coup, le premier, on voit que c'est un théâtre. On voit quand même au début que c'est un décor. Il arrive à le rendre crédible, mais on voit que c'est un décor. Le deuxième, il fait tellement pas décor. Enfin, si, on voit bien que c'est des décors. Enfin, bref, oui, évidemment, on voit que c'est des décors. Mais on... Comment dire ? À aucun moment, on se dit, OK, c'est un univers à part, etc. Ça se passe dans un autre monde. On a conscience que c'est un truc qui se passe dans notre monde. Et pour autant, en fait, il arrive à nous faire oublier que c'est des décors et que c'est pas un autre monde. Il arrive à nous faire oublier, et il y a vraiment des moments où j'étais convaincu, voilà, de... J'y croyais dur comme fer, en fait. Et je trouve que c'est aussi un peu ça qui a manqué sur le premier, c'est ce côté vraiment où j'ai réussi à m'évader pleinement. Et en fait, je pense que oui, surtout, ce qui a fait la différence, c'est cette réflexion, voilà, autour de ce métier-là, moi, qui me passionne en ce moment, voilà, cette réflexion. Donc, effectivement... Bref, c'est quelque chose qui a fait que le film s'est démarqué, et j'ai beaucoup plus préféré l'esthétique du deuxième, j'avoue. Les teintes un peu plus jaunes m'ont bien plus plu que les teintes plutôt bleuâtre, voilà, du premier. Enfin, bleuâtre, je dis ça comme si c'était négatif. Non, la photo est très belle, hein, c'est Bertrand Mandico. Bref, mais du coup, ouais, ce mec est un ovni, en fait, dans le paysage cinématographique français. Et je suis tellement content d'avoir vu ces films-là, et surtout le deuxième, et j'ai tellement hâte pour Conan. Et j'ai vraiment, je pète mon seum qu'il soit pas à l'étrange, pour le coup, voilà. Mais en tout cas, très, 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 très heureux d'avoir vu ces films-là. Et pour le coup, ouais, bravo, bravo, monsieur Mandico. Et voilà, j'espère que on verra Conan bien vite, hein, voilà, en tout cas il est prévu pour dans pas longtemps. J'espère que ça va pas faire comme pas mal de films, bon il est pas américain donc ça devrait aller, mais qu'il soit pas décalé, parce que pour le coup j'ai vraiment vraiment envie de le voir. Et c'est peut-être un peu con à dire, hein, vous allez voir, ça va pas du tout être sur le même ton les autres films, mais c'est un peu le film qui a sauvé ma journée. Allez, on va passer au deuxième film de la journée, qui était aussi présenté par l'équipe du film. On va passer à Pandemonium de Quarks.
Tu veux venir avec moi? On va aller dans un bel endroit et tout ira très bien. Viens. Vous avez besoin de voir la réalité en face, Nathan.
Après un accident, deux hommes errent sur la route. Ils doivent se rendre à l'évidence, ils sont bel et bien morts. C'est les seuls... ligne de synopsis, il y en a deux littéralement. Et pour le coup, un film qui part avec ce postulat-là, et c'est vrai que la première partie, c'est ça, moi je demande à voir. Moi je demande à voir parce que c'est un truc où ça peut poser des questions philosophiques tellement intéressantes, et ça peut être un film qui part dans une complexité, voilà, mais qui vraiment peut aller dans des trucs, mais exceptionnel. Donc pour le coup, un film comme ça, moi je demande à voir, et c'est typiquement le film, franchement je lis pas les synopsis avant d'aller voir le film à l'étrange, j'y vais, je ne sais pas de quoi va parler le film, j'y vais comme ça. Mais mettons que voilà, si jamais je devais vraiment sélectionner allez, je sais pas, il y a quoi, il y a un passe 10 films à l'étrange, bah mettons si je devais sélectionner 10 films et que du coup pour me décider je lisais les synopsis, ça je sais que je l'aurais sélectionné parce que c'est un synopsis qui m'attire. Est-ce que le film est à la hauteur? Ça, c'est autre chose. Par contre, en termes de synopsis, pour le coup, je pense qu'il y a un truc de fou à faire. Et en fait, ça va dans une idée qui est exceptionnelle. Voilà, ce passage d'eux, ils doivent réaliser qu'effectivement, oui. Et en fait, une fois qu'ils ont réalisé ça, il y a deux portes qui apparaissent. En fait, il y en a une qui, bon, on comprend que c'est la porte du paradis, et l'autre, la porte de l'enfer. Et à partir de là, je me dis putain, mais ça va être tellement passionnant. Alors que j'avais un peu de mal au début, hein, je trouvais ça un peu nanardesque et tout. Enfin, j'avais beaucoup de mal avec le début. Et en fait, quand ces portes arrivent, je me suis dit putain, ça va continuer là-dedans. Et en fait, ça va être exceptionnel si c'est 1h30, 1h40, même 1h38, je crois, le film, de ça, où vraiment ça va se questionner et tout. Et enfin, face aux portes, etc. Et qu'il y a d'autres événements et qu'en fait, c'est juste du dialogue, mais le film va être passionnant. Et en fait, le film prend une autre tournure. Voilà, pour le coup, bah, il s'emprunte une des portes, hein, je dirais pas laquelle, pour le coup. Mais bref, ce qui fait que le film, fondamentalement, n'a rien à raconter. Voilà, c'est assez terrible. En fait, il y a deux choses qui coexistent en l'une. Il y a ce synopsis-là de base, et en fait, il y a le fait que ça utilise ça pour aboutir à deux autres histoires, deux autres segments, mais qui je peux pas dire que ça raconte rien parce que c'est faux, mais qui en fait du coup font que bah, c'est pas bien construit, et qu'en fait c'est pas un film qui aurait dû être un long métrage, c'est un film qui aurait dû être un court, voilà, en juste reprenant, ou alors s'il voulait être un long, il fallait développer jusqu'au bout l'idée du début, ce qui est pas du tout le cas. Et en fait là, dans les deux segments, on a l'impression que en fait la première partie n'était qu'un prétexte pour aboutir à ces deux segments là pour vraiment parler du propos que veut déployer Quarks, qui pour moi est tout ce qui est les notions, déjà ça peut être de deuil, mais c'est pas pour moi la notion première du film. Pour moi, c'est la notion de culpabilité face à la mort. Voilà, c'est un film qui va parler de ça, qui pour le coup est pas très joyeux, vraiment. Voilà, je pense au deuxième segment des deux segments Or, le début, comme je vous ai dit, qui est un segment qui parle de harcèlement, et je l'ai trouvé assez maladroit, assez cliché dans son écriture, et en même temps, je pense que ça aurait pu... j'ai vu des gens sortir de la salle, peut-être pas spécifiquement à ce moment-là, mais je pense que ça aurait pu trigger tellement de personnes, et pour moi, ça, c'est dangereux, en fait. Voilà, où, quand je regarde un film et je me dis, putain, si j'avais vécu la situation, j'aurais été... hyper trigger, c'est que le film, enfin la façon d'aborder est pas super safe. Voilà, donc pour le coup, ouais, la partie sur le harcèlement, ouais, c'est une partie qui m'a pas spécialement plu et qui m'a fait me sentir assez mal, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà, les films sur le harcèlement, il y en a, et il y en a des excellents. Je pense à Un Monde de Laura Wendel qui était au Festival de Cannes, pas cette année du coup en 2022, mais bref, qui est un film exceptionnel sur le harcèlement. Donc il y en a hein, clairement, mais là j'ai trouvé ça, je sais pas, trop caricatural, trop poussif, trop appuyé. Même si l'intrigue par rapport à la mère dans ce segment, je la trouve intéressante. Le fait de autant pousser la culpabilité et que du coup, à cause de cette culpabilité, elle en arrive où elle en arrive, je trouve ça super intéressant, vraiment. Néanmoins, j'avoue que pour tout le reste, ça m'a vraiment laissé en dehors, ça m'a vraiment refroidi ce segment-là. Là où celui d'avant, je l'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire d'une petite fille qui globalement, a des bonnes grosses pulsions meurtrières, voilà, et qui finit éventuellement par passer à l'acte, j'en dis pas plus. Et en fait, c'est une histoire qui va être assez enfantine en plus sur tout le long, qui est une histoire d'amis imaginaires. Elle a un ami qui pour le coup, alors les inspi de ce film, elles sont très 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 claires, hein, et voilà, là elle a un ami qui s'appelle Tommy le Monstre. Tommy le Monstre, il sort tout droit de Elephant Man de David Lynch. À la fin, il y a une scène, j'en reparlerai, où c'est vraiment, bref, j'en reparlerai. Oui, effectivement, Tommy le Monstre, il sort tout droit de Elephant Man, et pour le coup, moi, ce monstre-là, je l'ai trouvé très intéressant, et je pense que c'est la chose qui m'a le plus intéressé dans le film. Vraiment, c'est ce segment-là qui doit faire, j'avoue ne pas, je pense entre 20 et 30 minutes, je pense, mais c'est vraiment, sur 1h38, hein, c'est vraiment ce qui m'a intéressé, outre le dialogue ou mes espoirs du début, bref, et l'esthétique qui est sympathique, mais bref, en tout cas, oui, c'est vrai que ce monstre-là, il représente un truc, moi, que j'aime beaucoup, qui est un sujet qui m'intéresse énormément, notamment en psychologie, c'est tout ce qui va être déni, refoulement, etc. Et pour le coup, c'est hyper, hyper explicite, je trouve. Voilà, c'est vraiment un monstre, avec qui, en fait, la petite communique comme si elle pouvait communiquer avec elle-même. Et pour le coup, c'est sa monstruosité à elle, et voilà, qui est du coup repoussée, refoulée, qui elle est dans le déni, en fait, de sa propre monstruosité. Et c'est en ça que j'ai énormément aimé le propos. Pour le coup de cette partie-là, en plus du fait que la gamine soit quand même vachement flippante. Bref, et que du coup, ça soit très efficace. Mais ouais, en tout cas, l'histoire avec Tommy le Monstre, moi, c'est celle qui m'a le plus plu, parce que justement, ça va aborder des thèmes qui, moi, me parlent et qui, pour le coup, voilà, auxquels je m'intéresse. Donc, effectivement, c'est un... Voilà, pour moi, si ça avait été le court-métrage juste avec ça, pour moi, ça aurait été un excellent film, sincèrement. Mais pour le coup, il y a tout le reste, voilà. Et donc après, c'est ces deux segments dont je vous ai parlé, on revient sur le personnage du début. Voilà, et pour le coup, il y a une scène à la fin où... c'est un mix entre... Il y a Leatherface de Massacre à la tronçonneuse qui se retrouve à reproduire la scène du bar du rectum dans Irréversible sans extincteur. Voilà. C'est vraiment littéralement ça. Je peux pas mieux le décrire. C'est Leatherface de Massacre à la tronçonneuse qui refait la scène d'Irréversible. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est vraiment ça. Il y a la même lumière que dans Irréversible. Il a le même tablier que Leatherface. Il a à peu près la même gueule. Il fait ça, je crois, de ses mains nues, pour le coup. Mais la tête finit écrasée pareil. Voilà, il y a le même angle de la caméra. Enfin, c'est la même chose, pour le coup. Et en soi, le mélange est plutôt intéressant et plutôt rigolo à regarder. Enfin, rigolo, façon de parler. Quand je dis rigolo, c'est un mélange qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Et pour le coup, voilà, je vous ai dit que les influences, elles étaient vachement claires, pour le coup. Et d'ailleurs, je sais qu'en termes d'influence, on nous est donné, et c'est dans le programme aussi, L'Au-delà de Lucio Fulci, que je n'ai pas vu. Donc peut-être que Lucio Fulci, pour le coup, fait à peu près ce que je voulais, c'est-à-dire ce truc un peu de discussion, etc., de réflexion sur l'au-delà, tout simplement. Mais là, c'est un film que j'ai trouvé beaucoup trop binaire. Alors certes, tu choisis d'adhérer à la croyance de l'enfer du paradis, c'est son choix. Mais pour le coup, c'est un film que, ouais, je sais pas, je l'ai trouvé même assez moralisateur. En fait, c'est un truc qui est très maladroit. Là, je vais spoil rapidement. Donc, bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes. Mais pour le coup, la petite fille qui se suicide à cause du harcèlement se retrouve en enfer. Et je sais que dans les religions, en tout cas, enfin, moi je connais principalement la religion chrétienne, je sais que le suicide c'est un péché, mais en fait je trouve ça hyper moralisateur, et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ça super maladroit, c'est que elle s'y retrouve, j'ai trouvé ça, mais pff, franchement, très 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 maladroit par exemple, et je sais pas, j'aurais voulu que ça ouvre la réflexion et tout, et en même temps il y a un mélange de culture à la fin où ça ouvre un petit peu la réflexion, mais du coup c'est incohérent avec tout ce qu'il y a avant, puisque ça parle de réincarnation, ça mélange la réincarnation et l'antichrist, etc. Enfin, c'est un peu brouillon en fait, et on a l'impression que, ouais, je sais pas, il n'y a pas vraiment de cohérence là-dedans dans l'évocation des religions, des mythologies, donc ouais, je trouve ça un peu dommage pour le coup, voilà, parce que je pense que c'est un film qui, en fait, s'il avait choisi entre deux choses, en fait, ou alors juste même pas choisi, hein, s'il avait continué son postulat de base, et juste s'il avait proposé ses deux autres segments en court-métrage, ce serait très bien passé, mais pour le coup, c'est pas ce qu'il a fait, donc du coup, c'est un film qui, dans son ensemble, ne fonctionne pas. Je veux pas vous dire que c'est désagréable à regarder, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le segment avec la petite, mais pour le coup, voilà, c'est quand même aberrant, un film d'une heure 38 qui devrait en faire 30, quoi. 30 minutes, j'entends, tout au plus. Donc, ouais, non, je trouve ça un peu dommage, sincèrement, parce que c'est un film qui avait vraiment du potentiel, mais pour le coup, voilà, c'est pas vraiment un film que je vais encenser, voilà, même s'il y a des choses très, très positives. Allez, on va passer au dernier film de la journée, qui était un film en compétition, et on va parler de Hit Big de J.P. Valkapa. Soy escandinavo. Yo amo Scandinavia. Aire puro, educación y las mujeres, sobre todo las mujeres. Sur la Costa del Sol espagnole, Majalena, je ne dis pas du tout comme ça, je pense, mais bref, 60 ans, alcoolique, ex-vice-miss Finlande, tient le bar Belle au bord de la faillite, aidé par son fils et son homme à tout faire. Fraîchement sorti de prison après 20 ans, Worm, son mari violent, s'apprête à vivre des recettes d'un ancien braquage avec son amant et compagnon de cellule. Majalena ne l'entend pas de cette manière. Alors, c'est probablement, je pense, le film déjà que j'ai le moins aimé depuis le début du festival, et je pense que c'est le film où j'ai le moins de choses à dire depuis le début du festival. C'est-à-dire que c'est un film, je ne sais pas du tout combien de temps va durer ma critique, je ne pense pas avoir vraiment beaucoup à dire pour être honnête, qui moi m'a beaucoup ennuyé, qui fait 2 heures, et qui pour le coup nous a été présenté comme une satire. Je n'ai pas vu la satire. Alors voilà, peut-être que je suis passé à côté de l'humour finlandais, ou finnois d'ailleurs, je crois qu'on dit, bref, je ne sais plus. Mais bref, peut-être que suis-je passé à côté de cet humour, hein, et voilà, et ce qui fait que je n'ai pas vu la satire, pour le coup, je ne l'ai pas vu. Peut-être c'est parce que les sous-titres étaient en anglais et que du coup, je ne sais pas, ça avait créé une frontière, même si je comprends l'anglais, hein, pour le coup, j'ai la chance de ne pas avoir de soucis là-dessus. Peut-être que ça crée une frontière entre moi et le film, et que pour le coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas saisi la complexité de l'humour, si tant est qu'il y en a une. Voilà, mais pour le coup, je trouve que c'est un film qui est en fait classique en tout point, qui est en fait classique dans son intrigue, dans cette intrigue de famille un peu paumé, un peu, je n'ai pas envie de dire cassos, mais pauvre, qui s'en sort vraiment pas, qui, du jour au lendemain, bon, bah, y a un enjeu d'argent, et ils vont s'embarquer dans une aventure rocambolesque, voilà, jusqu'à un dénouement, bref, qui, pour le coup, va mettre en avant les valeurs de la famille, etc. Et en fait, c'est un film qui touche aussi un peu aux policiers, aux crimes, etc. Dans le sens où il y a une prise d'otage dans le film, etc. Enfin bref, il y a un mec qui se fait kidnapper globalement. Une femme, pardon. Ça, on y reviendra. Je pense que oui, ça c'est vrai que j'ai des choses à dire. Bref, une femme qui se fait kidnapper. Et pour le coup, ça n'apporte pas grand-chose, voilà, à ce qui a déjà pu être fait dans ce registre-là. C'est pas spécialement marrant. Il n'y a pas spécialement des idées révolutionnaires de mise en scène ou des idées qui sortent du lot. Voilà, que dire de plus ? Ouais, non, c'est pas très drôle. Il n'y a pas beaucoup de mise en scène. Il n'y a pas tellement d'esthétique non plus. Voilà, il y a des moments qui vont arracher 2-3 sourires, un petit rire. Mais ils sont rares. Ils sont très très rares, surtout pour un film qui se veut être une comédie et une satire. Donc non, très déçu par ce film, surtout de le voir en dernière séance de la journée quand il y a toute la fatigue. Moi j'ai fait 4 séances aujourd'hui en comptant ma projection presse de ce matin, qui n'a rien à voir avec l'étrange hein, pour le coup, mais bref voilà, donc je vous reparlerai du film en temps voulu, mais pour le coup ouais, j'ai fait 4 séances, et quand on arrive à la 4ème et qu'on a en plus il y a la fatigue où j'ai pas énormément dormi, donc c'est vrai que c'est compliqué. J'ai lutté hein, pour rester réveillé, mais c'est compliqué. Je me suis assoupé un petit moment, mais ça va, j'ai pas trop loupé de trucs dans le film, même si c'est vrai que il y a un moment je voulais que ça s'arrête, et voilà, il y a une scène où je me suis dit putain, enfin il se passe un truc, et où pour le coup j'ai pas eu de mal à rester attentif. C'est la scène justement où on voit l'ex-mari, mais elle arrive tellement tard, elle arrive je pense au bout d'une heure et demi, 1h40 de film. Donc avant il y a tout l'aspect un peu c'est long ça, voilà. Et du coup là où je voulais parler, effectivement tout à l'heure j'ai mégenré, je m'en excuse, ce personnage en disant un homme qui s'est kidnappé, il y a un propos qui du coup va toucher à la transidentité, dans ce film, puisque justement c'est un personnage que tout le monde prend pour un homme et qui dit qu'en fait non, je suis une femme. Donc pour le coup ça, il n'y a pas de souci. Voilà, s'il veut inclure un personnage trans dans son film, je n'y vois aucun inconvénient. Au contraire, je vous ai parlé par exemple de Mutt pendant Champs-Élysées Film Festival. Moi je suis pour qu'il y ait plus de représentations comme ça. Je vois pas trop l'intérêt, par contre, voilà. Mutt, c'est vraiment, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, hein, un film qui est centré sur le quotidien d'un homme trans, sur la vie d'un homme trans, donc qui en fait part, c'est à part entière, en fait. Là, c'est tellement peu justifié, en fait, je trouve, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui justifie sa présence. On a l'impression qu'il a vraiment juste voulu cocher une case, et encore, je trouve que c'est un peu mou. Parce que, ok, je crois qu'il se fait traiter de tranny, donc je sais pas exactement ce qu'est la traduction. Ça doit être, je pense, plus soit travesti, soit transsexuel, plus que transgenre. Voilà, pour le coup. Et donc, effectivement, c'est pas quelque chose qui lui plaît. Elle se rebelle donc il y a ce petit propos là où on a ce personnage qui commence à s'affirmer. Je pense que j'ai dû dire il plusieurs fois. J'entendais le personnage, vu que le personnage est un mot masculin. Bref, je parlais pas directement de la personne. Donc oui, c'est vrai que je sais plus son nom. C'est Ninja d'ailleurs. Je trouve ça trop stylé comme prénom. Ninja, elle se rebelle et elle s'affirme. Donc pour le coup, c'est bien de montrer un personnage comme ça. En attendant, c'est vrai qu'elle se fait un peu séquestrer pendant plus de la moitié du film. Donc c'est sûr que c'est pas non plus une des meilleures représentations possibles. Et en fait, c'est hyper accessoire. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été un personnage trans, le film serait le même. Donc pour le coup, pour moi, là, il y a un problème quand on se dit ça. Et en fait, c'est, à part cette affirmation, et aussi un lien qui, pour le coup... Et en fait, à part cette affirmation-là et une certaine complicité qui se développe avec le personnage de la mère, c'est pas, je trouve, un personnage qui est mis en valeur. Et en fait, je trouve qu'on passe beaucoup plus de temps à le rabaisser plutôt qu'à... mettre le personnage en valeur. Enfin, c'est bizarre. J'ai pas vraiment compris cette nécessité d'inclure un personnage trans, et pour le coup je pense que c'était vraiment dispensable, et je pense que ça a pas du tout aidé le film, parce que c'était très très maladroit, et pour le coup, en fait, je sais même pas, je suppose que ça partit d'une bonne intention hein, mais je sais même pas si c'est fondamentalement le cas, voilà. Ce personnage, je sais pas si c'était une bonne idée, je pense que ça a plus plombé le film qu'autre chose, malheureusement, mais bon, voilà, ça s'inscrit dans une globalité, hein, d'un film qui était clairement décevant, là où c'est vrai que les films scandinaves, à l'étrange, on avait l'habitude d'avoir des bons trucs, hein, je pense, l'an dernier, rien que le prix Nouveau Genre, hein, c'était Sick of Myself qui l'avait eu, je vous ai parlé aussi du très bon L'étrange histoire du coupeur de bois, donc les films scandinaves habitués à l'étrange, ils sont bons, donc c'est pour ça que j'étais plutôt curieux de voir celui-là, et au final, très déçu, et pour le coup, voilà, je ne comprends pas cette volonté d'avoir voulu inclure un personnage trans dans le film, même si pour le coup, je suis pas mécontent, je suis pas en train de vous dire comme certains pourraient le faire, oh là là, ces vilains woke qui veulent transfuser leur culture partout, ils nous mettent des personnages gays, trans partout, etc. Non, moi, comme je le dis, hein, je suis pour ces représentations et c'est bien qu'il y en ait plus. Juste, si vous savez pas le faire, le faites pas, parce que du coup, ça rend pas service. Voilà, c'est tout ce que je dis. Allez, c'est la fin de cet épisode. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Demain, je devais voir 3 films. Voilà, je devais voir The Survival of Kindness, Magadera, qui est le film un des films du réalisateur je sais pas comment on dit. Bref, le film indien qui a vraiment fait parler l'an dernier, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs et qu'il faut que je rattrape. Et The Sweet East, voilà. Donc, il se trouve que j'ai eu certaines obligations, que j'ai dû décaler ma séance de Magadera au jeudi d'après, pas de demain, du coup, le jeudi 14. Donc, je verrai bien le film, mais je le chroniquerai pas demain pour le coup. Donc demain, ce sera The Survival of Kindness et The Sweet East. Ma plus grosse attente, je pense que c'est The Survival of Kindness, parce que ouais, je sais pas, en termes d'image qu'il y a dans la brochure, en termes du titre, je pense que c'est un film qui pour le coup a beaucoup plus de chances de me toucher, a beaucoup plus de chances de correspondre au cinéma que j'aime. Voilà, après on peut toujours être surpris et moi je ne demande qu'à être surpris. Voilà, mais en tout cas j'espère qu'on va repartir sur une bonne journée avec voilà, pour le coup j'ai vu 2 longs métrages aujourd'hui, c'était pas des bons longs métrages, j'espère que ça repartira de plus belle demain, voilà, et qu'on pourrait être servi en termes de qualité, même s'il y a eu Mandico aujourd'hui, voilà, c'était pas des longs métrages, donc j'espère que en termes des longs métrages, ça va, voilà, relever un petit peu le niveau demain, et sinon je me fais pas de soucis, je sais que dans ceux que je vois vendredi, il y aura du niveau dans tous les cas, mais bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas, et donc pour ma part, je vous dis à demain pour le débrief de la journée d'aujourd'hui.